Eh oui, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette partie de Cornebrume Noir Cosmique après la brume, l'abîme, je sais pas trop comment est-ce qu'on va appeler ça encore. Le jeu que je teste, que j'ai fait. En fait, vous écoutez maintenant l'épisode 1. Si vous avez manqué l'épisode 0, je vous conseille d'aller le voir où on a fait le montage, j'allais dire construction, mais c'est plus la. On va dire ça, construction, fabrication, mise à l'abîme, création du personnage de Marika. Bonsoir Marika, ça va bien?
Ça va bien toi-même?
Ça va très bien, merci. Marika qui a accepté de se lancer dans le jeu, de ce jeu tout cassé, où est-ce qu'on va voir si les mécaniques roulent bien. C'est un peu ça le style, c'est un peu ça l'idée derrière, oui, de jouer une aventure un peu Lovecraftienne, mais également aussi de tester le jeu, voir comment est-ce que celui-ci se joue, puisque c'est une première fois, en fait pas une première fois, mais une première fois filmée, où on teste des mécaniques, on teste un peu comment ça fonctionne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode 0 parce que vous allez mieux comprendre un peu de quoi tourne autour, on va dire, sur quoi portent les mécaniques. Parce que je ne veux pas non plus tout reformuler, recommencer à expliquer le fonctionnement. On va y aller un peu comme si on faisait tout simplement une partie, Marika et moi, et ainsi voir un peu comment se déroule narrativement les mécaniques, mais aussi mécaniquement, comment celles-ci s'engencent bien dans l'histoire et comment est-ce qu'elles peuvent bien s'exprimer en jeu. Donc, Marika, est-ce que tu es prête?
Oui.
Parfait. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence?
Non, mais il est possible qu'en cours de route, malgré la session zéro, j'ai des interrogations par rapport aux mécaniques, mais je pense que ça va aller.
Parfait. On commence ensemble. Petite remise en contexte pour les gens qui ne se rappellent pas ou du moins qui ont besoin de se remettre dans le bain concernant la situation actuelle dans le jeu dans lequel on se déroule. Il s'agit d'une uchronie. Une uchronie, un passé qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et qui est déformé par rapport à ce qu'il devrait être normalement. Le tout se déroule dans une période floue de notre histoire, entre les années 30 et les années 50. On ne sait pas trop. Il y a eu un éveil, l'événement qui a mené à la fin de la société comme on le connaît, alors que la divinité, connue sous le nom de Cthulhu, parce que oui, on est dans le mythe de Cthulhu, s'est enfin réveillée de son sommeil sans fin dans sa cité engloutie pour renverser l'état actuel de notre monde. Les étoiles ont bougé, le sol s'est ouvert et avalant tout sur son passage, et l'océan s'est réveillé et a englouti bonne partie de la civilisation humaine. Le temps est depuis flou, impossible à convenir, alors que le quotidien est plus sombre que lumineux, mais comme tout bon parasite, l'humain n'a pas disparu, il s'est adapté. Et avec l'éveil du grand ancien, les sciences occultes sont maintenant plus accessibles, tout comme la folie qui vient avec. Elle peut désormais aider à l'élaboration de la machinerie qui autrefois était l'ordre de l'imaginaire. Rien de pourtant futuriste, on est plus dans une espèce d'ambiance à la limite steampunk, mais pas trop, avec des bons vieux pistons, de l'huile, de la vapeur et de la sueur humaine. La civilisation humaine est fracturée, mais n'a pas cessé de croître pour autant. Il existe alors des points centraux qui sont toujours hors des flots et qui sont des références pour le genre humain, comme par exemple Arkham. Arkham, qui est une de ces fameuses villes dans les écrits de Lovecraft et dans le mythe en général, est aujourd'hui, en quelque sorte, une des cités florissantes et corrompues dans laquelle plusieurs âmes perdues tentent de trouver un sens à leur existence loin des flots, des eaux, mais aussi de la brume, parce qu'elle est omniprésente, elle englobe l'entièreté de notre monde, ce monde marin dans lequel l'homme tente comme il peut de tirer son épingle du jeu, en essayant de trouver refuge dans des endroits sécuritaires, loin des murmures et des créatures qui se cachent dans l'ombre et dans la brume. Et ainsi, notre aventure débute. Aika, on peut voir la caméra narrative qui fait une plongée dans les ruelles d'Arkham, cette grande ville portuaire, mais à la fois en même temps une île, soulevée au-dessus des flots, ou d'une raison ou d'une manière que personne ne peut réellement expliquer. Est-ce que c'est important? Non. L'important, c'est qu'elle soit sortie des eaux. Arkham est maintenant condensée. C'est une ruche, c'est une empilée de plusieurs bâtiments, justement à l'allure, à la limite entre le l'américain 1920 et aussi un petit côté victorien, quelque chose de très côte est américaine, alors que les gens tentent de survivre et de vivre dans ce quotidien plutôt difficile, mais en même temps, moins difficile qu'ailleurs. Arkham demeure un endroit où il fait bon de vivre, entre parenthèses, parce qu'on est plus en sécurité qu'à d'autres endroits, plus en sécurité qu'au travers de la brume, au travers des autres villes qui ont disparu et au travers même de la mer en soi. Et ton personnage habite à Arkham, mais ne vient pas de là, puisqu'on l'a lancé au hasard dans la création de personnage. Mm-hmm. Ne vient pas d'Arkham, vient d'ailleurs. Mais il y habite maintenant. Et tu habites en fait dans un petit appartement assez coincé, assez étroit, dans un quartier peut-être un peu plus au nord de la ville. Et tu pourrais peut-être me décrire un peu ton personnage. Qu'est-ce qu'on peut voir alors qu'on cette caméra justement plonge dans un carreau de vitres sales à l'intérieur de cet appartement assez petit, mais tout de même bien rempli? Qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Donc, le personnage s'appelle Virginia Vaughan. Elle est très petite, moins de 5 pieds. Bien en chair, donc assez ronde. Elle a un côté un peu athlétique, mais elle est plutôt ronde. Donc, des bonnes cuisses, des bons bras, une bonne bédaine. Donc, elle est en chair. Elle a la peau assez basanée, les cheveux foncés, courts, coupés à peu près aux oreilles, mais frisés. Donc, quand même avec du volume. Les yeux très foncés, pratiquement noirs. Elle est assez maquillée. On peut voir notamment du eyeliner, du mascara, de la poudre sur les joues, de l'ombre à paupières. Puis, peut-être, si elle va vers l'extérieur, elle est en train d'enfiler un grand manteau qui est un mélange, un amalgame entre un trench coat et un imperméable noir. Donc, il est assez long. Elle est très petite et on dirait qu'il n'est pas à sa taille. Tu sais, ça touche quasiment au sol lorsqu'elle le porte. Donc voilà, tu sais, les épaules sont un petit peu plus basses que ses épaules à elle, comme si elle avait porté le manteau d'un homme, par exemple, plus grand, plus costaud qu'elle. Donc voilà, Virginia Vaughan.
Virginia Vaughan, parfait. Donc oui, Virginia Vaughan, tu sors de ton logement, comme tu le mentionnes toi-même, tu es en train d'enfiler ton par-dessus, ton espèce de porte-poussière, comme on l'appelle, qui est un peu trop grand pour toi. Peut-être que tu as pris un peu ce qu'il y avait, parce qu'effectivement, que l'accessibilité aux biens et matériels, tout comme les habits ou même les outils, équipements, c'est parfois un peu de seconde main ou pris à la volée. Là, on n'a pas nécessairement la possibilité de se faire fabriquer un costume 3 pièces qui va tout exactement à notre grandeur et notre corpulence. Donc oui, tu portes ton par-dessus un peu trop grand et tu sors de chez vous au travers de cette espèce de grand bloc appartement qui ressemble à justement un amoncellement de plusieurs sections de maison un par-dessus l'autre et où d'autres personnes vivent leur quotidien sans vraiment avoir d'objectif de vie ou du moins avoir d'aspiration. On va dire seulement croire qu'il peut y avoir quelque chose d'ici quelques jours parce que c'est un peu ça l'ambiance présentement. Autant il y a des gens qui sont très proactifs, autant qu'il y a des gens qui vivent, on va dire, à leur... on va dire leur vie professionnelle ou même leur vie sociale en sachant qu'ils ont peut-être un avenir vers quelque chose, mais le temps est en flou, cette espèce de temporalité où on ne sait plus trop dans quelle année on se retrouve, on ne sait plus trop ça fait combien de temps est passé depuis l'éveil, depuis ce fameux éveil du grand ancien qui maintenant a disparu, ne donne plus signe de vie, mais qui a laissé sa marque permanente sur notre monde. Eh bien, beaucoup de personnes se laissent tout simplement errer au quotidien sans vraiment faire grand-chose. Mais ce n'est pas ton cas, parce que toi, Tu as un travail, tu as un objectif, tu as des tâches que tu accomplis au quotidien, tu prends des contrats, tu es une enquêtrice ou enquêteuse, les deux se disent maintenant, on le sait, et tu as en fait accepté un contrat venant de la part d'un homme que tu connais seulement de réputation. Un homme que ça te surprend un peu qu'il t'a pris contact avec toi parce que c'était pas nécessairement... C'est pas quelqu'un qui est en manque de fonds, c'est pas quelqu'un qui est en manque de... possibilité d'action, ou du moins de personnel à sa botte. Il s'agit en fait de Mr. Kane. Mr. Kane qui est un homme d'affaires d'Arkham, mais aussi également, du moins c'est ce qui est laissé sous-entendu, c'est aussi un gangster. C'est un homme qui joue dans la contrebande. Mais en même temps, qu'est-ce que la contrebande aujourd'hui? C'est plutôt flou, alors que la société n'est plus ce qu'elle est. Les lois sont présentes, les lois sont maintenant surtout d'un point de vue municipal presque, alors que c'est les lois d'Arkham avant tout. Mais il, de son mon humble point de vue, tu le sais très bien, comme plein d'autres personnes le savent aussi, il y va un peu selon son goût et son bon plaisir, donc il ne se limite pas à de simples petites choses légales, il va dans l'illégal. Et Mr. Kane, en fait, t'a laissé une carte de visite, un peu une espèce d'heure de rendez-vous à un endroit précis que tu le sais que c'est probablement pas sa maison, mais plus un bureau qu'il loue. Et il souhaitait te voir. Il t'a pas non plus marqué de date précise parce que encore une fois, la temporalité étant ce qu'elle est, il t'a plutôt dit après tant de jours, à partir du moment où tu reçois ce papier. Alors que les journées passent, c'est une des seules façons, si on veut en quelque sorte, de comprendre ou connaître le temps qu'il est, ou du moins à quel moment on est de la journée. Les nuits et le jour existent, bien sûr. Et ainsi, tu as pris cette espèce de petite carte espèce de bleu foncé avec bien lettré, c'est super chic, quelque chose que tu as rarement pu tenir dans tes mains, du moins dans les dernières années, qui te mentionnait un endroit précis dans le quartier sud, un endroit qui est justement un peu plus tourné vers la pègre, plus vers la criminalité. C'est un lieu, pas de perdition, mais c'est un lieu où tu vas, armé. Parce que c'est un endroit qui les policiers de la ville ne s'aventurent pas trop. Alors que le sud, c'est aussi le quartier sud, c'est aussi les environs du cimetière d'Arkham. Et le cimetière d'Arkham, malheureusement, contrairement à bien d'autres endroits dans la ville, celui-ci, eh bien, il a coulé dans les eaux en bonne partie. C'est rendu une espèce de swamp, une espèce de marécage où on peut apercevoir au loin, entre les barrières de fer, différentes pierres tombales qui flottent par-dessus les eaux, ici et là. Un endroit qui semblerait hanté. Une zone qu'on évite. J'imagine, je te vois hocher de la tête. J'imagine que c'est hanté. Un endroit qu'on évite à tout prix et qui les bonnes gens de bonne mœurs ne se promettent pas dans les environs du quartier sud. Mais toi, tu y vas. Tu y vas. Tu sors de chez vous. Espèce de vie. La vie de jour de Arkham est très. C'est vraiment comme je l'avais décrit, c'est un peu comme une ruche. C'est énormément de gens, c'est très compact. Du monde qui crie, du monde qui vont se hurler après, qui vont s'échanger des biens, qui vont vouloir vendre des choses contre d'autres choses. La monnaie d'échange actuellement, ce sont des bons d'achat. Ce sont vraiment des espèces de morceaux de papier avec une valeur monétaire qui est plutôt floue, mais qui permet d'acheter, si on veut en quelque sorte. C'est une nouvelle monnaie qui ne vaut pas grand-chose à l'extérieur de ceux qui utilisent la dite monnaie en question. Et elle est utilisée à Arkham. C'est ce que les gens utilisent.
Donc, principalement.
Principalement. Mais le troc aussi se fait. Mais en soi, tu sors une liasse de 5$ américains, ça ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Mm-hmm. C'est cette monnaie-là, c'est ces bons d'achat-là qui valent quelque chose. C'est une entente, c'est quelque chose qui est entendu entre, si on veut, les grandes villes qui sont encore hors des flots.
J'ai une question pour toi.
Vas-y.
Est-ce qu'il y a un climat typique? T'sais, mettons, est-ce qu'il pleut tout le temps ou c'est plutôt variant?
Ça, c'est variant. Il pleut pas tout le temps. C'est tout le temps un peu brumeux. Surtout que la brume, elle est permanente à l'extérieur des villes, sur les eaux. C'est toujours présent. Donc, c'est tout le temps un peu brumeux en ville, mais présentement, au moment où tu sors, il fait beau. Entre parenthèses, tu sais, on s'entend, c'est pas la canicule, mais il fait une espèce de 15-16 degrés avec soleil, nuages, et justement cette espèce de petite brume un peu au pied des gens qui semble se déplacer alors qu'on tu donnes des coups à l'intérieur comme si c'était vraiment comme un genre de neige accumulée, mais elle se défait, elle se reforme un peu plus loin. Et tu te déplaces ainsi au travers de la ville, au travers des gens, puis de temps en temps, tu as des espèces de petits. Des quêteurs qui viennent te quémander des bons d'achat, qui te demandent des choses, des biens, n'importe quoi. Là. Est-ce que tu es du genre, d'après toi, à t'arrêter ou tu es plus comme à être habitué puis mettre tes œillères de cheval pour éviter tout regard avec les personnes?
Non, j'aurais tendance à dire que je m'arrête. Puis j'aurais même tendance à dire que peut-être j'en connais. Tu sais, je connais les mendiants du coin, puis que j'ai tendance à parler avec eux, à essayer un peu d'en savoir plus. Puis, tu sais, sans nécessairement leur donner des bons d'achat, parce qu'après, je pense pas non plus que je suis riche ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'essaierais peut-être de leur trouver de la nourriture une fois de temps en temps, de leur ramener des choses quand j'arrive à l'appartement. Je dirais que j'ai quand même une bonne relation avec ces gens-là.
Okay.
Je la vois assez sympathique, là, assez sociable et tout ça, donc.
OK, parfait. Eh bien, dans ce cas-là, oui, tu vois que tu te fais un peu harceler, mais puisque tu considères que tu as une bonne relation avec ces personnes-là, en général, ils vont, s'ils le voient que tu es pressé, ils vont te laisser passer. Ils vont pas commencer à vouloir te bloquer le chemin et te demander des biens. S'ils voient que tu es comme en mission, entre parenthèses. Mm-hmm. Ils vont tout simplement te laisser passer, puis ils vont pas non plus trop être achalants. Ils vont pas s'acharner sur ton cas.
Si c'est possible, j'aimerais ça avoir comme un code pour qu'ils savent que c'est pas le moment. Puis le code, ce serait lorsque je mets mes lunettes de soleil, ça veut dire comme je suis en mode, vous devez pas me parler. Tu sais, j'aimerais ça que pour eux, je sois un genre de personnage. Tu sais, ils savent un peu que je suis genre détective. Fait que là, quand j'ai les lunettes, ça veut dire, OK, Virginia est en mode mission, là. Elle a d'autres obligations que nos soucis quotidiens.
Parfait. Et là, j'imagine que t'as mis tes lunettes.
Ouais.
Parfait. Fait que tu mets tes lunettes, puis tu vois qu'à ce moment-là, t'en avais quelques-uns qui s'approchaient vers toi. Puis là, quand ils te reconnaissent immédiatement, parce que t'es quand même assez caractériel, ils font juste comme reculer un peu, puis faire comme « Ah, OK, c'est pas le bon moment. » Puis ils s'en vont comme faire autre chose. Et tu files vers le sud, en direction du quartier sud. Toi, j'imaginais que tu habitais peut-être dans le coin. Là, je peux pas vraiment te partager, malheureusement, mais j'ai une super... Pour vrai, là, les gens, si je fais comme un peu la pub en même temps. Là, récemment, il y a un ouvrage qui est sorti, un nouvel ouvrage sur Arkham qui est sorti officiel par les gens qui font l'appel de Toulouse. Et ils ont une map, une carte qui est offerte, la carte de la ville. Puis c'est tellement beau, c'est bien précis, puis c'est très bien détaillé. Moi, j'imaginais que tu habitais probablement dans le coin du East Town, qui est comme l'espèce de vraiment côté est, un peu plus au... C'est pas complètement au nord, c'est au sud de la rivière qui autrefois coupait la ville en deux. Mais t'es dans les environs, t'es pas trop loin du quartier sud, mais t'es pas non plus dans t'es pas dans la débauche, mais t'es pas non plus dans le quartier UP. J'imagine dans cette section-là. Et justement, pour en revenir sur ce sujet-là, autrefois, il y avait une rivière qui scindait Arkham en deux. Une rivière dont j'ai oublié le nom, malheureusement, je sais plus comment elle s'appelait, mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, cette rivière-là, eh bien, elle n'est plus, puisque la ville en soi, elle a été pas inondée, mais justement, elle a réussi à survivre en dehors des eaux. C'est plutôt plusieurs petites rivières qui sont éparpillées un peu partout dans certaines sections de la ville où les gens peuvent parfois rentrer avec leur barque ou leur navire de pêcheur pour pouvoir aller vendre de l'équipement et tout ça. Et c'est plutôt commun, tu le sais, qu'à défaut de pouvoir prendre par exemple un taxi, les gens vont parfois se payer des traversiers. Ils vont se payer des passeurs pour pouvoir aller d'une zone à une autre dans la ville de façon plus rapide. Surtout dans les zones des quartiers sud, qui sont les zones où est-ce qu'il y a un peu plus de zones qui sont inondées, que les gens peuvent avoir accès en bateau. Alors que les zones du quartier nord, le North Side, et même un peu plus le quartier marchand, c'est des endroits qui sont un peu moins inondés et plus difficiles d'accès autrement qu'à pied. Et on dit même qu'il y a des endroits qui les véhiculent encore dans ces zones-là. Mais là, qui sait? Qui sait? Arkham, c'est quand même une grosse ville, pour vrai. C'est quand même une grosse ville. Fait que tu te déplaces vers le sud. Est-ce que d'après toi, tu irais justement à prendre... Je te pose la question, je le disais parce que je te pose la question. Est-ce que tu penses que tu prendrais un passeur ou tu tenterais d'y aller vraiment à pied jusqu'à ton lieu de rendez-vous?
Non, je prendrais un passeur parce qu'en plus, ce serait une façon un peu de me remémorer ma famille de pêcheurs puis ces moments passés sur le bateau. Fait que j'imagine que c'est quand même des bons souvenirs que ça m'évoque. Fait que si j'ai l'opportunité, dès que j'ai l'opportunité d'en emprunter un, je le ferai.
Parfait, parfait. Eh bien, à ce moment-là, on va te demander, premier jeu de mécanique en soi, je vais te demander de lancer un jeu de ressources, s'il te plaît.
D'accord.
Donc, pour les gens qui se posent la question, les jeux de ressources, c'est un peu comme les dés d'utilité qui sont très populaires dans des jeux comme le Black Hack et autres jeux OSR de ce genre. Mécanique que j'apprécie beaucoup, qui simplifie énormément l'utilisation de ressources. T'as eu combien?
J'ai 8.
Bon, ben, t'as pas de dépenses, pas rien du tout. C'est dans le fond, tu donnes quelques bons d'achat, tu dis la section que tu veux te rendre dans les quartiers sud, puis le passeur, c'est un petit bateau de pêche. En fait, depuis l'éveil, depuis le moment où les flots ont refloué et que la majorité des quotidiens est maintenant sous la flotte, les bateaux de pêche et autres navires de ce genre, c'est rendu une possession très primée. C'est rendu quelque chose qui vaut énormément d'or. Et même si un bateau est absolument dégueulasse et qu'il pue le vieux calmar et qu'il est rempli de cadavres de oursins, ça vaut de l'or en barre. Et le bateau dans lequel tu embarques, c'est pas un beau bateau. C'est un petit navire de pêcheur avec un petit moteur vraiment au propane, là, quelque chose d'extrêmement dégueulasse qui sent pas bon, mais qui fait absolument la job pour ce que tu as besoin, c'est-à-dire te rendre au point B. Et le monsieur qui t'embarque, tu sais, que tu as donné quelques bons d'achat, c'est un espèce de vieux capitaine ou du moins un marin qui porte une espèce de de porte-poussière fait assez épais pour pouvoir justement supporter les froids des courants marins. Et il a un petit chapeau un peu croche sur sa tête. Il doit y manquer comme 8 dents dans la bouche avec une grosse barbe grise qui a l'air de sentir un peu trop le sel de mer. Puis une petite pipe en bois qui tend sur le bord de la gueule. Puis il fait juste comme... Il te parle pas vraiment. Tu sais, tu lui as dit où aller. Lui, il connaît la ville du fond de sa poche. Il a juste une main sur la manivelle de son moteur. Puis le petit navire commence à se déplacer. Puis tu croises en fait plein d'autres personnes qui, eux, sont à un niveau un peu plus élevé que toi, sur les côtés, en fait, sur les rues où tu te déplaces dans des sections où est-ce qu'eux ne peuvent pas se rendre. Et tu te rends beaucoup plus rapidement, en fait, que tu te l'aurais fait à pied, jusque dans le quartier sud, l'endroit de ton rendez-vous.
Est-ce que je peux spécifier quelque chose?
Bien sûr. T'as un peu de bugger.
OK, j'ai bugué. Ouais. J'aimerais ça... moi, parler avec le monsieur. Okay. Tu dis, lui, il me parlait pas beaucoup, mais moi, je veux lui parler. Puis, je pense que Virginia aurait cette envie un jour d'avoir son propre bateau. Parce que, tu sais, ça faciliterait justement les missions. J'aurais pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Puis, probablement qu'à chaque fois que j'embarque avec un passeur, j'essaye de me renseigner sur... Bon, c'est quoi le prix des bateaux dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses en vente? Puis, genre, j'essaye vraiment de les interroger... sur la vente de bateaux, sur de quelle façon on peut s'en procurer de façon pas trop chérante. Puis, je leur parle de ce genre. À l'image de ma relation avec les mendiants, je parle aux passeurs comme si c'était genre mes amis, là. Et aucun jugement par rapport au fait que le bateau est dégueulasse, que le capitaine n'a pas de dents. Ça change rien pour moi. C'est un individu à part entière.
T'as pas de jugement à ce niveau-là? Là.
Non.
OK. OK. Tu vois qu'à la majorité, à chaque fois que tu poses ce genre de questions-là à des passeurs, à des traversiers, c'est tout le temps un peu la même, on dit la même rengaine, c'est la même discussion, le même échange, où est-ce qu'ils vont souvent te mentionner que c'est rendu tellement comme un objet primé que c'est quelque chose qui est souvent, exemple, légué. C'est bien rare que ça va être, exemple, acheté. C'est quelque chose qui sont légués, des choses qui sont parfois achetées dans certaines enchères, des éléments comme ça. Tu pourrais me faire, juste pour le plaisir de faire un jet, tu pourrais me faire un jet de... Fais-moi un jet d'empathie et de persuasion, s'il te plaît. Et je vous rappelle, les lance 2D.
Pas réussi.
T'en as pas réussi. Est-ce que tu décides de pousser?
Non.
Non.
Pas pour l'instant.
Parfait. Parfait. En soi, c'est pas grave. C'est pas grave, le but c'était seulement de pouvoir peut-être avoir des informations supplémentaires. Mm-hmm. Juste pour te le dire, si t'avais poussé, t'aurais eu un dé de stress, c'est sûr.
Ouais.
Et t'aurais eu le temps de le perdre si à ce que genre t'arrives à ta zone, t'arrives à ton lieu de rencontre.
D'accord.
Je vais au moins le dire. Parfait.
Ok, fait que c'est vraiment pas long, là.
Non.
Parce que ce serait rien passé non plus sur... c'est les circonstances qui font en sorte qu'il n'y aurait pas eu d'enjeu.
Non. Okay, souvent, comment est-ce que je vais le mentionner, ça va être... Vous perdez un point de stress. Ça veut dire que ça, mettons, t'aurais été à D8, puis tu serais descendu à D6. Mais là, toi étant D6, t'en as plus, simplement. T'sais. C'est pour ça que c'est bon. C'est plus facile à perdre. Fait que tu échanges comme ça avec le bonhomme, puis le bonhomme, tu sais, la même discussion, la même rengaine. Il va te dire,
bah, je suis à vendre, ouais, là, je suis légué, moi je l'ai reçu, mais.
Tu vois que lui, c'est pas trop. Le problème que, genre, au final, son bateau, c'est plus une question de circonstance, parce que lui, ça tombait que c'était un pêcheur quand il y a eu le grand éveil, puis il est juste bien content, bien chanceux, mais il est pas comme. C'est pas comme quelque chose de bien mystérieux, là. Tu vois qu'il a le goût de donner un aspect mystérieux et quasiment onirique au fait d'avoir un navire, mais c'est pas le cas, d'open bar.
C'est bon. Parfait.
Et il finit par arriver à ton lieu de rencontre alors qu'il te débarque non loin de l'avenue Peabody, qui est l'endroit où tu avais eu ta rencontre avec M. Kane. Et tu vois immédiatement qu'il y a eu un changement de visuel et un changement d'ambiance alors que l'endroit est un peu plus obscurci, presque comme si les maisons étaient tellement empilées les unes par-dessus les autres qu'elles cachaient un peu la lumière du soleil et la brume semble être un peu plus élevée, presque au niveau des genoux des gens. Et moins de personnes dans les rues, de temps en temps des marchands qui vont passer. C'est pas non plus, on s'entend, le monde ne sont pas comme en train de se dire « je vais me faire égorger si je passe d'un point A à un point B », mais tu vois que l'ambiance est un peu plus pesante. Le monde est un peu plus à cran.
Là, d'autant plus que moi, vu que j'ai déjà eu des problèmes avec la pègre, j'imagine que dans le quartier de criminels, je suis un petit peu plus sur mes gardes. Là.
Ouais. Effectivement. Effectivement que tu es un peu plus sur tes gardes. Est-ce que ton but, justement, c'est de ne pas être vu? Est-ce que ton but, c'est d'essayer d'être le plus subtil possible?
Ouais, je voudrais pas attirer. Je veux pas comme je veux pas me coller sur les murs là, ou quoi que ce soit, ou me cacher derrière des boîtes, mais je veux dire, j'essaierais de passer inaperçu, avoir l'air de n'importe qui se promène dans ce quartier-là.
OK. OK. Faire un geste, si tu veux. Ouais, faire un geste. Histoire de
ça
faire.
Ça serait agiter plus de discrétion, j'imagine.
Effectivement.
Mais vu que j'ai appris à surveiller mes arrières,
oui.
Je pourrais monter mon dé de caractéristique D8 à D10, c'est ça?
Absolument.
Parce que j'ai pas la compétence.
Je te le laisserai. Ça serait juste.
OK, parfait. Allons-y comme ça alors. Puis là, il faut que j'aille 6 ou plus sur ce délire, c'est ça?
Oui.
6.
Parfait. Tu réussis. Tu vois, tu sais, oui, on s'entend que les niveaux d'échecs sont un peu plus stressants à voir, mais c'est pas un jeu que tu vas lancer autant de dégâts à Donjons Dragons non plus. Parce que justement, le niveau de réussite est comme. Le seuil est comme égal. C'est tout le temps le même seuil. Fait qu'il y a pas non plus l'espèce de fait de genre faire plusieurs jets de suite pour accumuler comme différentes réussites ou tout ça. Non, c'est un peu plus circonstanciel. Fait que tu réussis. Tu vois que tu. T'as peut-être eu l'habitude de venir te promener dans ces quartiers-là lorsque t'as eu certains contrats justement par le passé. Tu sais que t'as eu des problèmes avec la pègre. Ainsi, t'as l'habitude de passer par certaines ruelles pour te rendre à ton point de rendez-vous. T'as l'habitude de savoir que ce coin-là est un peu moins passant, là, un peu plus à la vue. Et facilement, tu te faufiles au travers des différents quartiers sud de Arkham jusqu'à l'avenue Peabody. Et tu ne sais rien passé, tu n'as pas croisé personne. Il n'y a personne qui t'est mis à te crier après en faisant comme. Non, il n'y a personne qui t'a commencé à te hurler des mots par la tête. Même si de temps en temps, tu as entendu des gens hurler au travers de la brume à certains endroits dans le quartier, comme si des personnes se faisaient le saut entre eux. Ça demeure que c'est vraiment comme inquiétant, un peu plus que la moyenne des endroits.
Mm-hmm.
Il t'arrive à l'adresse en question. Tu vois que c'est un grand bâtiment. De l'extérieur, te semble très banal, te semble comme n'importe quelle autre de ces maisons empilées. Mais à l'entrée, il y a un homme, un grand goon costaud avec le visage un peu sérieux, sévère, la barbe pas faite de quelques jours, un grand porte-poussière qui lui fait bien, et un chapeau, une espèce de chapeau un peu. Un petit Fedora sombre qui est à côté, descendu en direction de ses yeux. Il est juste comme accoudé sur le bord de la fenêtre, puis il semble, sur le bord de la porte plutôt, et il semble attendre.
OK. Je vais à sa rencontre. Mm-hmm. J'enlève mes lunettes. Bien le bonjour, mon cher. J'ai rendez-vous avec Mr. Kane.
Il se lève vers toi. C'est comme si tu le sortais un peu de sa torpeur. Là. Il était comme dans l'une et il réfléchissait à mille et une choses en même temps. Il te regarde un peu surpris, il cligne des yeux. Il fait
Vous êtes l'investigatrice.
Et vous êtes perspicace, c'est bien moi, Virginia Vaughan, et j'y tends tout de suite la main.
Donc, il te la serre, mais il se présente pas. Il fait juste comme te la serrer. Puis il fait
ouais, monsieur Ken est à l'intérieur, il vous attendait justement. Il fait vous pouvez rentrer, c'est monter l'escalier, c'est la première porte à gauche.
Excellent. Une bonne fin de journée, mon cher.
Tu ne te dis même pas à toi aussi. Il fait juste comme murmurer quelque chose. Là. Et tu rentres à l'intérieur. Dès que tu mets les pieds à l'intérieur, tu vois que l'ambiance change du tout au tout. Mais alors que l'extérieur est très banal, l'intérieur, c'est très, très propre. Les planchers sont cirés. Le papier peint sur les murs, il est neuf. Ça semble être une maison qui a été un peu convertie en... Comment je pourrais dire? C'est pas nécessairement en bureau, mais oui, mais plus comme en espèce de centre d'action. Où est-ce que ça semble être un lieu de rencontre pour les gens qui travaillent pour ce monsieur-là? Parce qu'il y a plein de personnes. Plein de personnes qui sont éparpillées un peu partout au travers des pièces et qui jasent entre eux autres. Tu vois, qu'il y a un coin qui a l'air d'être un peu plus, espèce de coin un peu plus lounge où le monde va plus relaxer. Mais il y a un autre endroit plus à côté, une autre pièce où avec des tables et des cartes qui sont éparpillées. Puis on a l'air de comme préparer un coup. Là. Tu vois, qu'ils sont en train de convenir quelque chose. Et dès que tu rentres, le monde s'arrête de jaser. Il y en a quelques-uns qui lèvent la tête vers toi comme pour essayer de juste voir t'es qui. Mais dès qu'ils reconnaissent un peu ta bouille, parce que tu es justement assez reconnaissable, ils retournent sur leur papier puis ils continuent à faire leur affaire.
OK. Il y a combien de personnes à peu près? et que je vois?
Vite comme ça, tu te regardes de dire peut-être une douzaine.
OK. Et ça, c'est au rez-de-chaussée, puis il y a un escalier qui se présente à moi.
Oui, tu vois que dès qu'en rentrant, il y a un escalier qui monte, en fait. Un escalier droit.
Parfait. Je vais pas m'attarder, là. Je vais monter, puis prendre la porte à gauche.
Parfait. Tu montes, t'atteins la porte à gauche. Tu vois que c'est une espèce de grande porte en bois assez épaisse. Est-ce que tu cognes ou tu rentres, tout simplement?
Non, je cogne.
OK. Tu cognes. Toi, il y a quelques secondes qui passent. La porte s'entrouvre. Tu vois qu'il y a un espèce de grand individu à l'air patibulaire qui est seulement dans l'entrebâillement, le coin de son visage, avec un œil assez perçant, un crâne complètement chauve. Le gars, en fait, il n'y a aucun poil sur le corps. Tu vois pas, il n'y a pas de sourcils, il n'y a rien du tout. Et il te regarde en fronçant un peu les yeux, puis il fait comme « Madame Vaughan? »
« Oui, tout à fait. Enchanté. »«
Enchanté, Monsieur Kane vous attend justement. »
Il ouvre la porte et tu vois que c'est vraiment le classique bureau de mafieux. Espèce de grand bureau assez épais, en espèce de gros bois, gros chêne, avec un petit tapis sur le sol rouge. Il y a une fenêtre au fond, il y a une espèce de grande chaise assez massive sur laquelle est assis un monsieur que... Est-ce que tu penses que tu as déjà eu affaire à M. Kane par le passé? Je te lance la balle.
Parce que tantôt, tu semblais dire que c'était surprenant. Tu m'engages.
Mm-hmm. Mais peut-être que ça a déjà croisé. Ça a peut-être déjà...
Peut-être déjà croisé. Je te dirais que peut-être j'ai déjà entendu parler de lui parce que justement, j'ai eu affaire dans ce quartier-là pour de mauvaises raisons. Je dirais que le fait d'entrer dans ce bureau-là me rappelle peut-être, fait peut-être remonter des souvenirs négatifs où j'ai pu être traînée de force ou à cause de des événements passés. Je pense pas que j'ai fait affaire avec lui, mais peut-être que son nom a été évoqué dans certaines conversations que j'ai eues ou des gens pour qui j'ai travaillé ont parlé de lui puisqu'il semble avoir une certaine importance.
OK. Au moment que tu rentres, peut-être que tu l'imaginais pas du tout comme ça, alors que tu as justement cette espèce d'image-là de gangster un peu ventripotent, du moins, tu sais, très, très bien nourri avec le gros cigare à la main, les cheveux bien lichés sur le côté, puis une petite moustache bien lisse. Mais tu vois que c'est pas du tout ça. Le gars, il doit faire son âge. Il doit avoir peut-être fin quarantaine, début cinquantaine. Mais tu vois qu'il est tout petit. Il est vraiment, vraiment tout petit. Il est probablement aussi petit que toi.
Okay.
Très menu. Très, très menu. Une espèce de petit rouquin avec une gueule carrée, et il y a une espèce de petite moustache en brosse, puis un petit bouc aussi en brosse, roux comme sa tête, et une espèce de grand sourcil broussailleux avec des petits picotis sur le visage, des taches de rousseur, et il porte un espèce d'habit trois pièces avec une veste verte foncée, avec des chemises, une chemise blanche. Il y a de l'air, tu sais, sans... Tu le sais, là, maintenant que tu comprends un peu plus pourquoi est-ce que des fois, il y a des gens... T'as déjà entendu parler de cette légende, cette fameuse légende urbaine qu'il y a un compétiteur direct qui a voulu comme lui donner le surnom de Leprechaun et que ben ce compétiteur-là, ben il n'existe plus aujourd'hui.
Mm-hmm.
Tu comprends pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a de l'air d'un Leprechaun.
D'accord.
Même si j'imagine que tu ne vas jamais dire ça. Et
non, je suis très poli.
Ouais. Et au moment que tu rentres, il se lève de sur sa grosse chaise qui est trop grande pour lui et il étire son bras en ta direction pour te serrer la main en te faisant signe de son autre main de t'asseoir. Et il dit « Madame Vaughan, enchanté. »
Enchanté, Mr. Kane, mais avant de m'asseoir, moi, je lui tends la main.
OK. Toi qui te la serre. Tu la serres bien, bien fermement. Malgré sa petite taille, tu sens qu'il y a une main ferme. Là. Il y a quelque chose de très narfé. Là. C'est un petit narfé très, très solide.
Et
il s'assoit. Tu te fais signe de t'asseoir.
Je m'assois.
Tu vois qu'il y a un petit 2 secondes d'ambiance qui embarque. Puis il fait...
Est-ce que je peux vous servir un café, un thé, quelque chose?
Oh non, ça va. J'ai assez d'énergie comme ça. Je suis prêt à vous écouter.
Parfait, parfait. Droit au but, j'aime ça. J'aime ça. Fait. Hey, V, ferme la porte, s'il te plaît.
Puis tu vois que l'espèce de grand gars qui n'a pas un poil sur la tête et sur le visage non plus ferme la porte, puis il va comme lui se tenir un peu plus en arrière. Il est Il est dans ton dos. Le gars est dans ton dos, il est dans l'ombre, et il ne bouge pas. Il fait comme juste être debout dans l'ombre, puis de temps en temps, t'entends comme un bruit que tu ne saurais pas trop quoi, à quoi associer, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est comme le bruit d'une cigarette qui s'allume. Et il y a une petite fumée désagréable qui vient ainsi s'engouffrer dans la pièce. Il fait Madame Bogan, je vais aller droit au but. Vous me connaissez peut-être. Moi, je ne vous connais pas. J'ai seulement vu votre nom passer sur certaines listes lorsqu'on recherche des possibles personnes engagées pour des entretiens. Et c'est vraiment un peu par pur hasard que je vous ai trouvé, vous, plus qu'un autre, alors que j'aurais pu tomber sur un autre enquêteur ou enquêtrice en sachant que ceux-ci tentent un peu de se nourrir, un peu comme tout le monde. Puis tu vois qu'il rit, et tu vois qu'une de ses dents est comme en or, une petite dent en or placée sur son... pas loin d'une de ses canines. Je vais aller directement au but, et ainsi, en vous choisissant plutôt que quelqu'un d'autre, je m'attends tout simplement à un service aussi professionnel et courtois que pour n'importe quel service que je pourrais demander dans la ville pour n'importe quel bien. Vous comprenez, que ce soit à la boulangerie du coin ou à vous, je m'attends à ce que vous soyez professionnel, que vous ne tentiez pas de, disons, de faire quoi que ce soit qui pourrait entacher votre réputation en tant qu'enquêtrice, parce que votre réputation, vous avez quand même, vous avez accompli certaines choses par le passé.
C'est gentil de le relever. Si vous me permettez, et là, comme de mon sac, là, j'imagine que j'avais une petite besace, je vais sortir un carnet puis un crayon pour comme... être en mode, je vais prendre les notes. Vous avez, vous aussi, une réputation qui vous précède. Et je croyais que le fameux Mr. Kane ne choisissait pas de façon aléatoire les détectives qu'il engageait. Je remets un peu en doute le fait qu'il m'ait choisi de façon purement aveugle. Et j'aimerais peut-être, si c'est possible, faire un petit jet d'intuition sur ça.
Oui, ben oui, absolument, absolument. Tu peux faire un jet d'intuition.
J'ai un 6.
T'avais quoi? Un D8 et un D6?
Ouais, puis j'ai eu 6 sur le D8.
Ah bon, on voit-tu comment c'est bien fait ce système-là? Ok. Tu vois que tu lances cette pointe-là, ton but étant de déceler, voir s'il semble un peu.
Ouais, je veux pas être arrogante. Ouais. Je voulais relancer sur le fait qu'il parle de ma réputation. T'sais, il me dit qu'il me connaît pas, là, il dit que j'ai une réputation. Fait que je suis comme, ben, vous aussi, vous avez une réputation. Comme pourquoi vous m'avez choisi de façon aléatoire. Okay. J'ai pas d'arrogance.
Non, je comprends. Tu vois qu'il le comprend bien. Et il y a comme un petit sourire en coin qui apparaît en dessous de sa moustache brossée rousse. Et il fait... Bon, OK. Ben, je comprends où est-ce que vous voulez en venir. On vous a sorti dans un lot parmi plusieurs choix. Et avec ce lot et ces choix différents, on a évalué lesquels étaient plus intéressants. Il y a un de vos compétiteurs directs qui a tout simplement disparu dans la brume. Un autre, ses deux jambes cassées. Un autre, il est intéressé, mais lorsqu'on lui a offert le contrat, il a décidé de refuser. Et finalement, il y a vous. Donc, il y a plusieurs choix, mais vous êtes quand même plus intéressante que d'autres. Je choisirais avant la personne qui a les jambes cassées, vous comprenez?
Surtout
si c'est de ma faute qu'il a les jambes cassées, puis toi qui tape sur sa table, un peu content.
Je tape sur ma cuisse, mais je suis un peu nerveuse, mais j'essaie de ne pas le démontrer.
Okay. GM. Ah, bon, bref, j'ai des choses sérieuses. Parce que lui aussi, il sort une espèce de calepin où est-ce qu'il a pris des notes, puis il l'ouvre pour pouvoir un peu regarder ses propres écrits. Il va sortir une petite paire de lunettes rondes qui se met au bout du nez, puis il va commencer à lire en faisant « Écoutez, je suis à la recherche de ma nièce, Elisa Amberg. C'est une jeune femme qui a... malheureusement été enlevé par des vils brigands, des gens qui ont à cœur le malheur de notre et la survie de notre espèce, si vous voyez ce que je veux dire. Puis il se penche vers toi un peu plus, puis il va comme murmurer entre ses lèvres, des cultistes. Des gens qui ont embrassé ce futur dans lequel nous nous trouvons actuellement, des gens qui adorent fait que nous sommes à deux doigts d'une extinction. Et kidnappé, pourquoi, je ne sais pas. Et c'est un peu pour ça aussi que je fais affaire au service. Découvrir qui est à l'origine de ce vol,
outre les indices qu'ils ont laissés derrière dans son appartement, qui m'ont laissé sous-entendre qu'il s'agissait bel et bien de cultistes, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'ils veulent à Elisa. Ah, Elisa, ses parents sont morts, vous savez. Gloria et Jerry Berg. Je me suis occupé de la jeune fille jusqu'à son âge adulte. Depuis, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, mais de temps en temps, on gardait contact. Et là, elle a disparu.
Et j'imagine que c'était su que c'était votre nièce, n'est-ce pas?
Oui. Donc, vous pouvez vous assurer que je suis encore plus surpris de voir que des gens osent au moins s'en prendre à ma propre famille. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour la trouver? Tout simplement parce que les gens qui travaillent pour moi, eh bien, ils sont connus. Donc, les gens se cachent, ne parlent pas, ne disent rien. Je ne sais pas du tout vers où me tourner, vers quoi me tourner. Donc, je demande aux enquêteurs, aux enquêtrices de cette bonne vieille ville de mettre la main à la pâte et de trouver et dénicher ma nièce.
Dommage que la loyauté les ait quittés lorsque... Le moment était propice de vous aider. Je suis là pour régler tout ça. Je ferai mon possible, mais pouvez-vous me dire les indices laissés dans son appartement? Quel était-il?
Les graffitis, comme pour montrer qu'ils étaient de passage. Pour tourner le fer dans la plaie, j'imagine. Vous allez pouvoir aller voir par vous-même, si vous voulez. Plutôt qu'il va comme sortir de son calepin une photo qu'il balance sur la table. Qui est une photo de Elisa en soi, que je te montre immédiatement, mais tu l'as déjà vu dans un de mes montages, là, mais juste la montrer.
Et c'est aujourd'hui âgée de 19 ans. Un joli brin de femme. Mais malheureusement, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Autrement, peut-être. Non, ça serait complètement fou de penser. C'est un sacrifice humain dans quel monde on vit. Ah, quel bon don vie.
Est-ce qu'elle avait des occupations, un emploi, des amis connus?
Des amis, non. Un emploi, j'ai toujours veillé à ce qu'elle n'ait pas besoin de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a peut-être des occupations. Oui, oui, mais vous savez, la famille, c'est important. Vous avez de la famille, Madame Vaughan?
Par Cam, non. C'est mieux pour eux.
Oui. Et pour le reste, d'accord. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, excepté justement de peut-être commencer par son appartement, son propriétaire qui avait le bloc dans lequel elle habite. J'ai tenté de le faire parler un peu, mais je crois que j'y ai fait plus peur qu'autre chose.
Sans surprise.
Oui.
Je tenterai d'être plus convivial. Et ses parents, ils sont décédés dans des circonstances particulières ou...
Ils se sont
banal accident? Ah.
Ça fait longtemps, elle était très jeune.
Et il ne baignait pas, pour pas faire de mauvais jeu de mots, dans les cultes et compagnies de ce genre.
Non, a priori, j'aurais jamais laissé ma sœur être dans cette... dans ce genre de situation.
Vous avez une forte influence, n'est-ce pas?
Bon, est-ce que vous en doutez, Madame Vaughan?
Je n'en doute pas, je ne veux pas vous insulter, mais il reste que certains gens de la ville semblent vouloir remettre en doute ce pouvoir.
Oui, je comprends très bien, et c'est pour ça aussi que je fais affaire avec vous, parce que je veux passer par quelqu'un d'un peu plus neutre, quelqu'un qui a moins une aura péjorative que la mienne, à travers certaines personnes. Bien entendu, vous seriez très bien payé, hein? N'est-ce pas, V? Puis tu vois que l'homme en arrière qui était situé comme derrière toi, tu l'entends juste comme marcher sur le plancher en bois qui craque et qui s'approche. Et il y a juste comme son ombre qui apparaît comme au-dessus de la table, un peu à ta droite. Puis il fait juste déposer comme une liasse de bons d'achat, comme ça. Puis il fait, vous auriez cette partie-là tout de suite et une autre moitié à la fin du contrat.
Excellent. Oui, ça me semble être suffisant, mais avez-vous une date de fin? Est-ce que je dois retrouver dans un échéancier précis ou jusqu'à ce que les indices soient épuisés?
J'aimerais que vous puissiez me garder à jour si jamais vous êtes capable de me donner des mises à jour concernant la situation. Et si jamais vous trouvez spécifiquement l'endroit, vous vous trouvez vous-même à l'endroit où est ma nièce. Et on pourra le savoir facilement. Tu vois qu'il se tourne à nouveau vers son homme de main. Il fait juste comme claquer des doigts. Et ce dernier, espèce de grand homme imberbe, okay, il sort de ses poches une petite amulette qui tout le temps.
OK.
Et qu'il t'offre.
Parfait, je la prends. De quoi elle a l'air?
Je vais te la mettre aussi en photo, tu peux la voir.
Excellent. OK. Est-ce que ça m'évoque quelque chose?
Vite comme ça, non. Ça c'est vraiment... C'est très ornementé dans un sens qui est assez direct là, sur ce que ça peut représenter. Ça semble être occulte et même à la limite paranormal. Ça semble toucher dans le surnaturel. Mais t'as l'acquiescement, t'es d'accord avec cette hypothèse au moment où est-ce qu'il te dit, au moment où est-ce que M. Kane te dit « Et lorsque vous aurez découvert ma nièce, vous n'avez qu'à le penser en serrant ce bracelet, nous le saurons. »
C'est son unique utilité?
Oui.
Est-ce que je dois cacher le talisman ou est-ce que certains pourraient reconnaître ce genre d'artefact?
Je ne pense pas. Je pense qu'il pourrait avoir une certaine valeur sur le marché noir. Donc, si jamais vous avez peur de vous le faire voler, peut-être le cacher. Mais je ne pense pas qu'il va être associé à moi directement, non.
D'accord. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que vous avez été suivi ou avez-vous vu des gens dans les alentours depuis sa disparition qui semblaient vouloir vous mettre la main au collet, hein, quoique je ne conseillerais ça à personne?
Non, pas que je sache. C'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude non plus de constamment regarder par-dessus mon épaule. Est-ce que tu as remarqué quelque chose, toi, V? Puis tu vois que le grand gars qui est allé comme se retourner s'asseoir, du moins se tenir derrière toi plus au loin... Il fait juste comme faire un espèce de « non ». C'est tout. Il dit « je ne penserais pas ».
Donc, bien que j'ai l'habitude d'être toujours sur mes gardes, je n'ai pas besoin d'être plus nerveuse qu'à mes habitudes, justement.
Non, je ne pense pas. Quoique, à mesure que vous allez peut-être en découvrir, peut-être que vous allez savoir des choses qui échappent à ma compréhension. Et si je mettais les cas, je vous conseillerais de possiblement venir me refaire une petite mise à jour. Si jamais vous êtes aussi à sec monétairement, on pourra s'arranger. Toi qui souris avec sa grosse dent en or.
Bien entendu. Et je lui rends son sourire. Est-ce qu'il y a d'autres gens, mis à part les gens présents dans la salle, qui sont au courant que vous m'avez engagé, comme la panoplie d'individus en bas?
Ils savaient que je venais que vous aviez une rencontre aujourd'hui, sinon vous ne l'auriez pas laissé passer, mais ils ne savent pas à quelle origine non plus.
Si jamais ça vient à la conversation, vous pourrez leur mentionner que finalement je n'ai pas accepté le contrat.
Oui, je pensais que je pourrais peut-être avoir quelqu'un dans mes rangs qui serait une fouine.
Il faut toujours avoir un double regard sur les gens qui nous sont proches. Je ne vous apprends rien, j'imagine.
Non, effectivement. Effectivement. Oui, bien, fort bien. Je ne vous retiens pas plus longtemps, Madame Vaughan. C'était très, très agréable comme échange. Merci beaucoup pour vos services et tenez-moi au courant des avancées.
Excellent, avec plaisir. Nous nous reverrons bientôt, je l'espère.
Je l'espère aussi. Ok, il se lève debout. Mais tu vois, quand même, qu'il se lève, c'est comme s'il ne gagnait pas nécessairement en grandeur. Puis tu sers la main. Bon, c'est ça, vous êtes un peu au même niveau. Tu sers la main.
Oui.
Et tu quittes. Et tu peux marquer, en fait, que ton dé de ressources est rendu à D10.
Ah! Excellent! Parfait! En quittant, j'aimerais ça quand même avoir un autre petit coup d'œil pour le monsieur imberbe.
Mm-hmm.
Juste voir si je remarque pas quelque chose chez lui. Il attise quand même ma curiosité. Peut-être, je sais pas si j'ai besoin de spécifier, mais peut-être, est-ce qu'il a l'air de porter une arme? Est-ce que, tu sais, c'est quoi sa fonction un peu auprès de Mr. Kane, mettons?
OK. Tu préfères un jeu d'observation, si tu veux.
OK. Bon, j'ai 6.
Comme quoi ce système-là fonctionne. Ça, à date, c'est plus de réussite que d'échec.
Ouais, à date, j'ai un échec.
Ouais, c'est ça. T'as-tu un 6 sur ton D6, ton D8 encore?
Sur mon D6.
OK, quand même. Tu vois que le gars, il semble pas avoir d'armes à vue, sauf qu'au moment où tu passes à côté de lui, tu remarques,
T'sais, il a tout le temps été un peu dans l'ombre.
Ouais.
Tu remarques que ses yeux, du moins du coin de l'œil, l'œil qui te voit passer, là, il y a un certain point, il y a vraiment une petite lueur, à la limite mauve. Mauve pourpre, qui s'allume. Et tu comprends que définitivement, ce gars-là, il doit jouer dans, on va dire, tout ce qui touche la sorcellerie et les autres choses qui, maintenant, sont à la possibilité de l'homme.
OK. OK, fait que là, tantôt, quand il m'a dit que il voyait pas les liens entre le kidnapping de sa nièce et des cultistes...
Ben, l'affaire, c'est que, je sais pas que ça soit clair, des gens peuvent pratiquer la magie sans nécessairement être des cultistes.
OK, d'accord.
Les gens peuvent avoir certains talents sans être associés à un culte précis.
Mais
c'est toujours dangereux pour... Oui, vas-y.
Mais la pratique de la magie, ça a commencé après l'éveil.
La pratique de la magie existait avant l'éveil, était exclusive aux cultistes.
Okay.
C'était souvent des gens qui étaient des priants de Cthulhu ou des autres grands anciens qui voulaient les réveiller, qui pratiquaient ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus popularisé, mais c'est quelque chose de tout aussi dangereux qui éventuellement mène l'individu qui la pratique à la folie.
OK.
Tu peux pas être complètement sain d'esprit et faire de la magie.
OK. Alors, je prends cette information et je descends. Puis, avant de ressortir du bâtiment, j'aimerais, là, tu me diras si c'est possible, de façon subtile, dans le sens où je veux pas tant que les gens me voient faire, mais j'aimerais ça prendre en photo un maximum de gens. Pour que si je revois ces gens-là dans la rue, mettons, j'ai un visuel sur « Hey, cette personne-là était là, est-ce qu'elle a l'air de me suivre? »
C'est bien pensé, ça. OK.
J'ai un appareil photo, mais ouais, tu sais, ouais, ouais, ça doit être un gros truc. Là,
ben, c'est pas trop...
J'imagine qu'on le voit.
C'est pas trop... on s'entend. Là, c'était pas besoin de le déplier sur des pieds puis d'avoir tourné un truc pour pouvoir prendre une photo. Il n'y a pas non plus un flash avec...
Des étincelles.
Des étincelles. Non, c'est un peu plus subtil que ça. OK. Oui, sauf que par contre, ça va demander. Je vais te demander de faire un jet pour ça. Ça va être un jet de discrétion. Avec agilité.
Je l'ai pas. Fait que je vais juste faire agilité, puis ça va peut-être être la première fois que je vais push. Non, j'ai 8! Yay!
Regarde, ça fonctionne.
Et j'ai juste en dragon que j'ai la poisse.
Ouais, c'est ça. Subtilement, tu descends les marches, et probablement en fait que c'est quelque chose que tu as déjà fait par le passé. Fait que tu dois avoir peut-être une technique même de genre placer ton appareil d'une certaine façon dans ton trench coat, dans ton pot de poussière pour pouvoir laisser sortir le petit visuel puis prendre une photo. Et il y a un bruit, tu sais, il y a quelque chose, ça fait pas genre un petit bruit silencieux, il y a quelque chose, il y a même un claque qui se fait, sauf qu'au travers des gens qui parlent, au travers des personnes qui s'échangent et qui marchent, ça s'est pas entendu.
OK. Puis admettons, j'ai réussi à pogner combien de personnes sur la photo?
J'avais dit 12 personnes qui avaient appelé.
Ouais.
Je vais lancer un des 12.
J'ai 8 sur mon D8, là.
T'as quand même pogné 10 personnes.
Oh! OK.
Fait que tu sais, peut-être que genre le 11 et le 12, c'est des gens qui sont en train de sortir de la photo ou qui sont comme trop flous ou que tu peux absolument
pas être capable de voir, là. Je pourrais pas les identifier, là.
Non.
Parfait. Excellent.
Et tu quittes ainsi, en direction... Oui. Vas-y.
J'ai même pas demandé l'adresse, mais j'imagine qu'il m'a donné l'adresse de sa nièce. Elle habite-tu le quartier sud aussi ou?
Non, elle habite en French Hill. C'est beaucoup plus au nord.
Okay.
C'est dans un quartier vraiment plus supé. Et tu quittes ainsi la demeure de M. Kane. Est-ce que tu retournes à ton bureau avant chez vous ou tu vas directement à French Hill?
Non, j'irai directement
à French Hill.
Ouais, parfait. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Là.
Parfait. On te voit ainsi quitter en direction de French Hill. Tu peux prendre encore une fois un passeur si tu en ressens le besoin ou non. C'est sûr que tu peux pas te rendre jusqu'à French Hill avec un passeur. C'est une zone qui est beaucoup hors de l'eau. Mais tout de même, tu fais quand même un bon chemin alors qu'on peut t'apercevoir, parce que malheureusement, la partie tire déjà sa fin, il est 10 heures. On va devoir terminer ça pour l'instant. Mais on peut t'apercevoir peut-être une caméra narrative qui monte au travers des ruelles et des rues de la cité d'Arkham un peu plus haut alors que la brume commence à se lever, que tranquillement le soleil continue son chemin dans le ciel alors que nous entendons peut-être les hurlements et les bruits des personnes qui vivent dans cette espèce de grande ville à moitié inondée mais tout de même bien vivante. Et qui sait ce qui adviendra de cette enquête à la recherche de Elisa Hemberg, la nièce d'un homme d'affaires dash criminel d'Arkham, alors que cette chère Virginia Vaughan se lance ainsi dans ce périple. Nous verrons pour un prochain épisode. Mm-hmm. Ainsi, ça se termine. Merci, Marika, pour ce premier parti.
Merci, Pépé. C'était vraiment ça? Cool. Oui, j'ai adoré ça.
Cool. T'aimes-tu? OK, mais là, justement, là, c'est la partie un peu plus... On revient, tu sais, 2-3 minutes juste sur le système. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as trouvé que ça se faisait bien? Est-ce que tu trouvais que ça se prenait bien?
Ouais, j'ai trouvé ça très simple pour l'instant. Puis, je trouve aussi, comme je l'avais précisé, que c'est facile d'utiliser les traits. Tu sais, de dire, ah ben, je vais... De réfléchir à mon action en me disant, ah oui, ben en plus, je peux m'aider en prenant cette action-là. Non, j'ai trouvé ça super cool. Puis, les dés auront été en ma faveur. Fait que... Pour l'instant.
Ouais, même ça pas va. Besoin de stress, en fait. Même pas besoin
non.
de
stress. Non. J'ai failli, cool. mais. Non.
Parfait.
Ça va.
Si t'avais échoué, l'appareil photo, est-ce que t'aurais pris un stress pour essayer de le refaire?
Oui.
Ouais, c'est ça, je me disais. C'est ça, je me disais. Parfait. Puis, dernière question.
Parce que dans le fond, je me dis que les personnes qui l'ont kidnappé, c'est sûr qu'elles savent que, Elisa est liée à Mr. Kane. Mm-hmm. Fait que. Genre, une de mes premières hypothèses, c'est que c'est quelqu'un de l'interne, justement, qui a peut-être divulgué des informations. Fait que je veux quand même avoir une bonne idée de c'est qui les gens avec qui ils travaillent. Je trouve qu'il y avait beaucoup de gens pour, genre, le fait que ce soit censé... Tu sais, il m'a donné un rendez-vous, puis il y a plein de monde qui peuvent me voir. Je trouve que c'est pas super... pas brillant, mais comme... Il est pas tant sur ses gardes pour quelqu'un qui cherche sa nièce qui a été kidnappée. Fait que... On dirait qu'il a l'air de faire une confiance aveugle.
À son
nom. Ouais. Puis en même temps, moi, il m'engage, il me connaît pas ou presque pas. Tu sais, je trouve que pour un gars qu'on constate avoir une grande réputation, être intelligent et tout ça, peut-être que. Ouais. Fait que voilà. Fait que,
OK. Intéressant. Intéressant.
C'est mes premières impressions.
Parfait. Juste une petite question côté système mécanique. Est-ce que tu trouves que, justement, concernant les traits spécialités, ça a quand même bien tombé dans ton cas, mais est-ce que tu penses que ça aurait l'avantage d'avoir tout le temps la possibilité entre un trait qui est très général et quelque chose de plus spécifique, ou tu as l'impression que les gens vont tout le temps vouloir se jeter par défaut sur le général parce que justement il est plus approprié dans le plus grand, des cas?
Ben, vu qu'on en choisit 3,
ouais.
J'ai l'impression que les gens vont avoir tendance à équilibrer. Tu sais, okay. Peut-être en choisir 2 généraux, un plus spécifique ou 2 spécifiques, un général. Fait que moi, je laisserais comme ça pour justement que les gens puissent choisir un peu la façon dont ils veulent jouer. Puis j'ai l'impression que, tu sais, si tu fais plusieurs parties, justement, tu vas peut-être alterner tes choix.
Mm-hmm.
Fait que non, moi, je trouve ça bien comme ça. Puis je trouve ça correct de laisser justement la possibilité de sélectionner, tu sais.
OK, parfait. Je me demandais. OK, cool. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont... Il faudrait que je recheck un peu, mais non, je crois même, il faudrait que je le réévalue. Ça a quand même bien tombé pour ton personnage, mais je pense que, tu sais, il y a certains choix que, dans un cas comme dans l'autre, les 2 traits sont soit très général ou très spécifique. Il faudrait que je recheck pour être sûr. Là. Mais j'étais quand même curieux d'avoir ton avis là-dessus. Bon, mais parfait. Fait que, hey, merci Marika. Merci Marika.
Merci
on va
Pépé.
Pouvoir, ben, c'est un plaisir. On va pouvoir continuer ça une prochaine fois à la suite de cette aventure dans le jeu de... Corne de brume dash noir abyss. On verra encore. Prochain épisode, je vais essayer d'avoir un nom final. Fait que on checkera ça. Hey, merci encore et on se dit à la prochaine. Dites-nous en commentaire si vous appréciez ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Hein? C'est cool.
Ouais. Puis peut-être nous donner l'opinion par rapport au nom. Est-ce qu'il y a une préférence?
Oui,
chez les gens qui nous
écoutent? Ou même si vous avez un nom aussi en tête, si vous voulez que ça s'appelle Zouin Bain Bain, ben dites-le en commentaire ou quelque chose de
votez
plus
pour Cornebrume, c'est bon Cornebrume.
Ou juste quelque chose d'autre. Dites-le en commentaire. On veut savoir. Merci. Bye bye. Au revoir.
Bye.